Voilà. Encore heureux d'être avec vous ce dimanche. La semaine dernière, nous avons parlé du vrai disciple. La Bible parle beaucoup des disciples. Si vous lisez les évangiles, le Nouveau Testament, vous allez tomber, vous ne pouvez pas ne pas tomber sur cette notion de disciple et de vrai disciple. Donc on a parlé la semaine dernière du vrai disciple et de ce qui fait premièrement un disciple, c'est-à-dire la nouvelle naissance, le fait de recevoir Christ, Jésus-Christ dans sa vie, de la nécessité de la nouvelle naissance. Nous avons vu quelques traits de caractère. Nous avons dit qu'on ne peut pas expliquer le processus détaillé de la nouvelle naissance. La Bible ne nous dit rien là-dessus, mais en tout cas, on peut connaître certaines choses de la nouvelle naissance. Et nous avions lu dans Jean chapitre 3 ce que Jésus dit dans cet entretien qu'il a eu avec Nicodème. Aujourd'hui, nous voulons nous attarder au rapport entre le vrai disciple et l'Église locale. Si nous lisons pareillement la Bible, elle parle beaucoup d'Église. Vous ne pouvez pas non plus échapper à la notion d'Église dans la Bible. Et c'est quelque chose qui traverse tout le Nouveau Testament. Et en particulier, si vous tombez sur, si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir que la Bible parle beaucoup de l'Église locale. On fait une différence entre l'Église universelle, qui est l'ensemble, l'assemblée de tous les croyants, depuis la Pentecôte, de tout temps, hein, à tous les âges, et puis l'Église locale, comme l'Église de Fréjus, hein, qui est une assemblée locale, où, voilà, qui est visible quelque part en un lieu géographique précis, qui peut exister à un moment, et puis qui peut ne plus exister à un autre moment. Ça, c'est arrivé. Il y a des églises qui, voilà, parfois locales, qui disparaissent parce que, bon, voilà, il n'y a plus personne, ça peut arriver. Mais l'Église universelle, elle demeure toujours, elle est indestructible. C'est l'Église de Christ, c'est le corps de Christ. Mais ce corps de Christ, quoi, aussi est représenté à différents endroits du monde par ce qu'on appelle les églises locales. Et la Bible parle beaucoup des églises locales. Quel rapport est-ce que nous entretenons avec l'église locale? Quelle importance est-ce qu'elle revêt à nos yeux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous? Est-ce que nous trouvons important de nous rassembler? Voilà, là nous sommes rassemblés aujourd'hui, de nous rassembler le dimanche, le jeudi, peut-être d'autres jours de la semaine. Et on affirme parfois faire partie d'une assemblée, souvent, mais de ne pas, et on ne s'y rend pas toujours très souvent. On dit parfois que ce qui est important, c'est d'être dans l'Église universelle. Quand on est un chrétien, on appartient à l'Église universelle. Alors, est-ce que c'est une nécessité d'être dans une Église locale? N'est-ce pas une pure invention humaine quand on nous demande de nous engager, d'être membre dans une église locale? Et certaines personnes, je crois, rejettent l'idée de devenir membre à cause peut-être de mauvaises expériences qu'ils ont eues par le passé dans une première église, ou parfois à cause du caractère, on pourrait dire, administratif, hein, surtout en France, que représente cette notion d'appartenir à une église qui est déclarée comme une association, etc. Et parfois aussi, c'est à cause de contraintes que cela peut représenter. Si on est engagé dans une église, on a l'impression que les autres ont un droit de regard sur nous. En tout cas, ce que l'on apprend à travers la parole de Dieu, c'est que les premiers chrétiens ont eu à cœur de faire, non pas ce qu'ils avaient envie de faire eux-mêmes, mais ont eu à cœur de faire ce que le Saint-Esprit les poussait à faire. Et quand on lit le livre des Actes, où on voit la naissance de l'Église, où l'Église universelle, d'ailleurs, était confondue avec l'Église locale, parce que c'était qu'est née l'Église, eh bien, on voit qu'il y a un rapport très étroit entre le fait d'être un disciple et le fait d'appartenir à une Église. Donc, je vous invite à lire Acte chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 47. Acte chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Écoutons donc la parole de Dieu. Il dit ceux qui acceptèrent sa parole. Donc ça c'est à la suite de la prédication, du discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Verset 41, acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain et les maisons dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà donc ce que la Bible nous dit de ces toutes premières églises, dans ces toutes premières œuvres. Et je trouve que cela est très rafraîchissant. Chaque fois que je pense à l'Église, j'aime bien relire ce passage, parce que ça donne, on a une impression de fraîcheur, de simplicité qui naît avec cette première Église. Ce que nous voulons voir ce matin, c'est donc dans ce rapport entre le vrai disciple et l'Église, c'est que les vrais disciples, premièrement, composent l'Église locale, ce que l'on peut voir ici. Deuxièmement, que les vrais disciples adhèrent à l'Église locale. Et puis enfin, que les vrais disciples s'engagent dans l'Église locale. Donc les vrais disciples composent l'Église locale, les vrais disciples adhèrent à l'Église locale, les vrais disciples s'engagent dans l'Église locale. Verset 41 dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et le Seigneur, verset 47, ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Alors, on parle assez facilement de l'Église, mais qu'est-ce que c'est que l'Église pour nous? Notre texte établit ici, je crois, clairement un lien entre le fait de devenir disciple et le fait d'appartenir à l'Église. On peut noter, quand on lit ce texte, avec quelle force il insiste sur l'aspect un peu communautaire qui est né lors de la Pentecôte. Ils étaient tous dans un même lieu, hein, si vous regardez le texte, nous dit qu'ils étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils partageaient entre tous, ils étaient tous ensemble. Donc il y a vraiment cette idée avec les premières conversions, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, de la naissance d'une communauté, quelque chose. Donc les disciples, quand on parle de ces disciples, le texte dit bien que ce sont les disciples, le nombre des disciples hein, qui augmentait d'environ 3000 âmes. Donc ces disciples ces personnes qui deviennent des disciples se constituent tout de suite en communauté. Et ils font beaucoup de choses ensemble. Et je crois qu'on est extrêmement frappé par cela. Et l'apôtre Paul, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, parle du fait de recevoir le Saint-Esprit. Il appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, dit-il, pour former un seul corps. Il dit que le fait de recevoir l'Esprit de Christ, c'est-à-dire quand on se convertit, c'est ce qu'on appelle le baptême de l'Esprit, quand on reçoit Christ, quand on se convertit, ici comme l'apôtre Pierre le disait, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit de Christ, on devient un disciple de Christ, mais on devient un disciple pour être plongé dans le corps de Christ. Nous avons tous été baptisés, dit Paul, 1 Corinthiens 12, 13, facile à retenir, pour former dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Donc, tous ceux qui reçoivent Christ, qui deviennent des disciples, sont unis dans le corps de Christ. Mais ils sont unis localement aussi, on le voit ici, dans ce corps. Quand quelqu'un se convertit quelque part, il n'est jamais converti pour être tout seul, pour être un disciple isolé. Il est converti pour être inclus dans un corps et le corps de Christ, le corps universel, mais aussi dans ce corps local. Notez que l'Église, donc, est la communauté de disciples exclusivement. L'Église, ça n'est pas, permettez-moi de le dire, ça n'est pas tous ceux qui sont entre quatre murs d'un bâtiment qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est la communauté de disciples exclusivement. C'est-à-dire que dans cette salle même, seuls ceux qui sont les disciples de Christ composent et constituent l'Église de Christ et l'Église locale de Fréjus. Et c'est pareil ailleurs. C'est ce que l'on voit ici. Parler de l'Église, c'est parler des disciples. Et parler des disciples, c'est aussi parler de l'Église. Et c'est le sentiment, je pense, qui ressort de notre texte. Il y a, d'un côté, les disciples, et il n'y a pas, en fait, de côté les disciples, puis de l'autre côté, quelque chose qu'on appelle l'Église. Les deux choses sont intimement liées et s'entremêlent. Et si vous regardez les versets 41 à 47, vous voyez que ces versets parlent d'un groupe particulier de personnes. Verset 41, il est dit « ceux qui acceptèrent sa parole ». Verset 44, il est parlé de « tous ceux qui croyaient ». Puis verset 47, il est encore parlé de « ceux qui étaient sauvés ». Alors, je pense que le texte établit un contraste ici entre une catégorie de personnes et une autre catégorie de personnes. Et si nous lisons plus tôt en avant, nous remarquons que il y avait beaucoup de personnes qui étaient à Jérusalem à ce moment-là. Chapitre 2, il est question de verset 5, par exemple, chapitre 2, verset 5. « Il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux de toute nation qui sont sous le ciel. » Il y avait beaucoup de gens ici qui étaient réunis. On voit au verset 7, verset 6 déjà, qu'il y a eu un bruit qui s'est passé, on lit, et puis que la multitude de personnes accourt lorsqu'elle entend ce bruit. Et cette multitude est dans l'étonnement et la surprise. Verset 7, encore verset 12, il est dit « ils étaient tous ceux qui étaient là, dans l'étonnement et dans la surprise ». Mais lorsque, verset 41, le texte nous parle de l'Église, elle parle seulement de personnes bien particulières. Vous notez cela, il dit « ceux qui », pas tous, pas la multitude, mais « ceux qui acceptèrent sa parole ». Ceux, verset 44, « tous ceux qui croyaient ». Verset 47, « ceux qui étaient sauvés ». Parle d'une catégorie bien particulière de personnes. Ce sont donc ceux qu'on appelle les disciples, ces personnes qui ont accepté Christ, qui se sont fait baptiser, qui continuent à croire, verset 44, qui sont sauvés, ce qu'on appelle les disciples. C'est ceux-là qui constituent, vraiment, qui composent l'Église de Christ. Notez comment ils sont bien définis. Donc, ceux qui reçoivent la parole de Dieu et qui y obéissent. Ceux qui reçurent la parole furent baptisés. Tels sont les disciples qui composent l'Église. Ils sont, on l'a dit la semaine dernière, nés de nouveau. Ils ont une attitude particulière à l'égard de la parole de Dieu et qu'ils viennent d'entendre par l'apôtre Pierre et qui lui avait dit « Repentez-vous », ce qu'il avait dit verset 38, « et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Donc, ils ont reçu comme vraie cette parole, ils s'y sont soumis, et sont donc devenus des disciples de Christ. L'apôtre Paul dit, par exemple, dans 1 Thessaloniciens 2, 13, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Voilà ce qui distingue d'un disciple, celui qui reçoit la parole de Dieu, qu'il entend, non pas comme venant d'un homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire comme la parole de Dieu puissante et agissante dans les cœurs. Et c'est ce que ces hommes ont fait ce jour-là. Et ils sont déterminés aussi par ceux qui croient, verset 44, tous ceux qui croyaient, c'est-à-dire ceux qui continuent à croire. Parfois, on parle de personnes qui ont cru à un moment donné et puis qui ne croient plus. La foi véritable consiste à croire continuellement en Jésus-Christ. Si vous lisez l'évangile de Jean, c'est le sens, on l'a dit la semaine dernière, que cela a. On croit, mais on croit continuellement dans la parole de Dieu. L'Église n'est pas donc le rassemblement ici de tous ceux qui étaient venus à la Pentecôte, mais seulement le rassemblement de ceux qui ont accepté la parole, ceux qui se sont fait baptiser, ceux qui ont cru et ont continué à croire dans la parole de Dieu. Donc notre texte montre de manière, je pense, très évidente qu'avec la naissance de l'Église, il s'est opéré une distinction franche entre l'Église et le monde. Et cette distinction était visible, hein, et puis en même temps, elle était lisible. Si on lit Acte 5, verset 13, il est question de se joindre à Acte 5, verset 13. Regardons quelques pages plus loin. Verset 12 déjà, il dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. » Vous voyez, donc il y a quelque chose qui paraît ici comme une frontière. Hein, ici, on n'ose pas entrer dans ce groupe de personnes particulières ici. Donc c'est que ces personnes étaient visiblement reconnaissables. Hein. Donc c'était une église locale. Et il y avait une frontière qui se dessinait déjà entre tout le reste du peuple et ces personnes. Personne n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Dans Acte 9, verset 26, on parle de l'apôtre Paul, et il est dit que lorsque l'apôtre Paul se rend à Jérusalem, donc c'est peu de temps après sa conversion, Acte 9, verset 26, il dit « Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. » Il tâche de se joindre, pareil, rentrer dans ce groupe de chrétiens qui sont à Jérusalem. Donc c'est un groupe qui devient visible, mais je vous dis aussi, c'est un groupe qui est une personne qui est lisible. Hein. Les contours de l'Église ne sont pas flous. Ce sont ceux qui, on l'a dit déjà, qui reçoivent sa parole, ceux qui sont sauvés, ceux qui croient. Et c'est ceux-là qui constituent l'Église. Je lisais dernièrement, il n'y a pas très longtemps, dans un livre qui s'appelle « L'Église émergente » et où l'auteur disait que les partisans de ces églises qu'on dit « Églises émergentes » maintenant, parlent de changements dans la culture et dans la société et annoncent aussi donc, l'émergence d'une nouvelle église. Les leaders de ces mouvements-là disent que les leaders chrétiens doivent s'adapter à l'église qui est en train d'émerger. Et donc les priorités du mouvement dans l'église émergente sont l'appartenance avant le quoi. C'est-à-dire, on appartient d'abord à l'église et on croit ensuite. La foi vient après. Et donc le mot d'ordre, c'est d'intégrer de plus en plus de personnes à l'église, les laisser respirer l'église, sentir l'église, et après, donc ils appartiennent à l'église, ils participent même aux activités de l'église, et après, ils peuvent croire. Ainsi, donc la question, c'est d'inviter les gens à appartenir à l'église, les faire entrer dans l'histoire de l'église, les faire participer à la vie de l'église. Ils se sentent ainsi accueillis, et comme ils se sentent accueillis, eh bien, le croire, je veux dire, viendra ensuite. Mais quand on pense à cela, c'est l'exact opposé de ce qui est dit ici. D'accord ? Ceux qui acceptent d'abord la parole, qui deviennent, qui appartiennent après à l'Église. Ce n'est pas tous ceux qui étaient à la Pentecôte qui étaient dans l'Église, c'est ceux qui acceptent la parole, ceux qui croient. Donc, il faut d'abord croire avant d'appartenir, et pas l'inverse. Alors, on doit se méfier, parce que maintenant, c'est vrai que, voilà, on dit, venez à l'église, tout le monde est à l'église, vous êtes l'église, participez à l'église. Il y a même des endroits où les gens ne sont pas convertis, et ils peuvent participer à la scène, à des choses. Non, la Bible nous enseigne clairement qu'il faut d'abord croire. C'est le point de départ. On devient chrétien, et seulement les disciples composent véritablement l'église. Ça, c'est une chose qui est, je pense, importante à dire. Deuxièmement, vous voudrez voir que les vrais disciples adhèrent à l'église locale. Que firent ces personnes, on pourrait dire nouvellement converties? Bien, elles se sont jointes à l'église de Jérusalem. Elles sont venues de toutes parts, mais on voit qu'elles se sont jointes à l'église de Jérusalem. Elles ont adhéré, on pourrait dire, immédiatement à l'église locale de Jérusalem. Et ce point est frappant, je pense, dans le récit de Luc et au verset 44, nous disons « Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun ». Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et au verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et donc cela nous montre que l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit, pousse les nouveaux chrétiens à se joindre à l'église. Ils ne sont pas repartis chez eux, mais ils sont restés, ils se sont joints à cette nouvelle église naissante. Ils se convertissent, se font baptiser, et puis ils se joignent à l'église. Et ça, c'est une chose qui est importante aussi. Parfois, on dit, oui, bon, on me veut que je sois membre, que je m'engage dans l'Église, que je sois membre de l'Église. Moi, je suis un chrétien, je n'ai pas besoin de m'associer à une quelconque Église. Et d'ailleurs, je grandis mieux quand je suis tout seul. Ma foi grandit davantage parce que, bon, voilà, on n'a pas besoin de se confronter aux autres chrétiens. Ici, notre texte montre vraiment cette communauté qui existe et le fait que ces hommes se joignent et adhèrent à cette église. J'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, un homme, moi, ma femme et moi, nous avons rencontré un homme qui faisait de l'évangélisation dans une brocante. Et il y avait un grand panneau comme ça, dos, il parle de Jésus-Christ, etc. Alors on l'a abordé, on a dit, tiens, c'est bien ce que vous faites et tout. Et puis dans la discussion, on a voulu savoir de quelle église il était. Ah, il nous a dit qu'il n'assiste pas dans une église. Et donc on était surpris. Il a dit que son ministère, c'est d'être dans la rue le dimanche, plutôt que de perdre son temps sur des bancs d'église un dimanche. C'était exactement ce qu'il nous a dit. Donc on était surpris. Il dit, et donc si vous rencontrez quelqu'un qui vous témoigne, qui se convertit, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Il a dit, il a la Bible et le Saint-Esprit. Ça suffit. Il peut, j'ai dit, il est baptisé, ben, il dit, il se fait baptiser dans sa baignoire, quelque chose comme ça. Hein. Et ça s'est fait. Et après, ils grandissent avec la parole et le Saint-Esprit. C'est suffisant. Ben. On pourrait se poser la question, qu'est-ce que la parole et le Saint-Esprit ont fait faire à ses premiers disciples? Ils ont reçu l'Esprit, ils ont été baptisés. Et tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont associés ensemble à l'Église. C'est ça que le Saint-Esprit pousse à faire. Le Saint-Esprit ne pousse pas les gens à se disperser, à vivre en isolé. Au contraire, l'Esprit pousse les chrétiens à se rassembler et à vivre ensemble. Et quand nous lisons les épîtres, nous sommes surpris de voir combien les exhortations qui sont données sont toujours des exhortations avec des nous. Hein, approchons-nous, hein, exhortons-nous réciproquement. Il y a quelque chose qui est vraiment que l'on doit faire constamment ensemble. Qu'il est beau de voir des frères, psaume 133, de demeurer. De les voir demeurer ensemble. C'est là que descend la bénédiction. Il y a cette volonté du Seigneur que les chrétiens s'associent ensemble et vivent ensemble. Donc c'était assez surprenant de voir cette conception qu'avait cet homme qui pourtant semblait vouloir témoigner de Christ, mais en même temps, dans la pratique, enseignait quelque chose qui allait à l'encontre de ce que Christ enseigne dans sa parole. Ces premiers chrétiens se sont joints à l'Église immédiatement, malgré la différence de nationalité, qui venait d'horizons différents. Leur diversité nationale n'a pas été un problème. Ils se sont joints immédiatement à l'Église, malgré les différences de langue qu'ils avaient. Ils ne parlaient pas tous la même langue. Hein, quand on lit les versets dans ce texte, on se rend compte qu'ils étaient émerveillés d'entendre des gens qui parlaient, qui louaient Dieu dans leur propre langue, donc ils n'avaient pas tous la même langue, même s'ils pouvaient comprendre une langue commune. Ils se sont joints immédiatement, malgré les différences sociales aussi. Ils n'étaient pas tous du même rang social. On le voit ici parce que certains vendaient leurs propriétés et puis pour pouvoir partager le fruit avec ceux qui en avaient besoin. C'est ça, c'est pour cela qu'ils avaient vendu leurs propriétés. Ce n'était pas vendre pour vendre, c'était vendre parce qu'il y avait un besoin particulier pour certains membres de cette nouvelle communauté. Donc, ils se sont joints immédiatement malgré toutes ces différences-là. Et je crois que l'addition à l'Église est la volonté du Seigneur. C'est sa volonté et c'est même son œuvre. Hein. Le verset 47 nous le dit clairement. Il dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est lui qui sauve et c'est lui qui ajoute à l'Église. La volonté de Dieu est que les chrétiens, les disciples, s'ajoutent à l'Église. Bien sûr, il ajoute à l'Église locale, mais ici, en l'occurrence, il ajoute aussi à l'Église universelle, mais il ajoute à l'Église locale de Jérusalem, ici. Et la Bible soutient la nécessité d'appartenir à une Église locale. Bien sûr, vous n'allez pas trouver de verset dans la Bible qui dit « Engagez-vous, devenez membre d'une Église locale ». Ça n'existe pas. Il n'y a pas ça dans la Bible. Mais, quand on lit la Bible, on voit très clairement la nécessité d'appartenir à une église locale. Le Seigneur a prévu que ses enfants soient disciplinés par l'église locale. Dans Matthieu chapitre 18, regardez avec moi Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15, il dit, « Si ton frère a péché, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas et tu le reprends entre toi et lui seul. » Voilà comment ça doit commencer. Un principe qu'on doit toujours suivre d'ailleurs. Hein. « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de deux ou de trois témoins. » Donc, on commence cela seul. Après, si ça ne marche pas, on vient avec d'autres personnes. Et puis verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à qui ? À l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Vous voyez ? Donc ici, il y a un moment où l'Église doit exercer une discipline, parce que ici, Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, dit « Dis-le à l'Église. » Quelle Église ? À l'Église universelle ? Comment vous allez convoquer l'Église universelle pour le dire ? Non, il parle bien de l'Église local, ça veut dire, et en même temps quand il le dit, ça veut dire que cette église a vocation à exercer une discipline sur le membre et que le membre doit être soumis à l'église. Donc l'église a un certain pouvoir, donc il y a un lien particulier qui unit cette église et cette personne. Vous voyez, donc ici, le Seigneur, cela montre la nécessité pour nous parce que Jésus veut que nous soyons disciplinés par l'église. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13, ne lisez pas, je lis, il dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ?» Ceux du dehors. Il dit, « N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Pareil, il y avait un membre dans l'église qui vivait dans l'inceste. Il dit, « Mais je ne comprends pas que vous n'ayez pas résolu ce problème. » Il dit, « Ce n'est pas les gens du dehors, c'est-à-dire hors de l'église qu'il faut juger. Vous avez à juger ceux du dedans. » Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est-à-dire que l'église doit exercer une discipline. Et pour que l'église exerce une discipline, il faut que la personne soit membre de l'église. Il faut qu'elle appartienne, il faut qu'elle soit reconnue comme faisant partie de cette église. On ne peut pas discipliner quelqu'un qui... vous ne disciplinez pas l'enfant du voisin. Hein. Je pense que ça ne se fait pas. Vous pouvez lui donner, lui dire quelque chose, mais vous n'avez aucune autorité sur lui. Par contre, sur le vôtre, vous pouvez, vous avez de l'autorité, vous devez exercer cette autorité. Pareil, ici, quand on appartient à l'Église, on se met sous la responsabilité de l'Église. L'Église a un droit de regard sur nous. Et cela est bénéfique pour notre marche spirituelle. Ici. Donc, c'est important. Et un auteur disait ceci, il disait que l'adhésion à l'Église locale est le moyen par lequel nous délimitons les frontières de l'Église. Quand nous nous engageons dans l'église, quand nous devenons membres d'une église locale, d'accord, nous sommes en train de donner au monde le moyen par lequel on délimite les frontières de l'église. Mais s'il n'y a pas d'église locale, il n'y a rien, on ne sait pas où on est. Tout le monde, on vient, on va. Non, il y a dans une salle même des gens qui viennent et qui font partie de l'église, d'autres qui ne font pas partie de l'église. C'est important d'établir cette frontière-là. C'est très, extrêmement important ici dans ce que l'on voit dans la parole de Dieu. Donc si vous, cet auteur que j'ai cité, il s'appelle Marc Dever, il écrit un livre qui s'appelle « L'Église intentionnelle ». C'est très très bien fait. Je vous conseille de le lire si vous voulez avoir d'autres indications sur ce que c'est que l'Église et la vie d'Église. Donc ici, le chrétien, le disciple adhère, le vrai disciple adhère à l'Église locale. Parce que même s'il ne trouve pas de verset qui dit « adhérer à l'Église locale » dans la Bible, il comprend que Dieu veut qu'il soit discipliné par l'Église, qu'il puisse grandir dans l'Église. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, parle de l'Église comme un corps, de l'Église locale, comme un corps et dans lequel il y a plusieurs membres. Hein. Et il dit que les membres ont tous besoin les uns des autres. Donc la nécessité d'être dans l'Église locale est maintenue par la nécessité, par le besoin que j'ai de l'autre frère. J'ai besoin, nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans la connaissance de Christ. Par conséquent, nous avons besoin d'être dans une église locale où un tel un autre prendra soin de nous, où moi je pourrai prendre soin des autres. Et l'apôtre Paul le montre très clairement, on n'a pas le temps de le regarder, dans 1 Corinthiens 12, où il parle vraiment, il prend cette métaphore du corps pour parler de l'église locale et des différents membres, de l'œil, du pied, de la main et du lien qui relie les différents membres du corps et de l'interdépendance qu'il y a entre ces différents membres du corps. Et puis troisièmement, je voudrais terminer en disant que les vrais disciples aussi s'engagent dans l'église locale. Donc les vrais disciples composent l'église locale, ce sont ceux qui sont vraiment des disciples qui composent l'église locale et pas les autres. Les vrais disciples s'engagent, adhèrent à l'église locale, ils acceptent cela, le fait d'être membre d'une église, hein, pour pouvoir grandir ensemble, progresser ensemble, mais aussi être disciplinés ensemble. Et puis, les vrais disciples donc s'engagent dans l'église locale. Notons ce que dit notre texte, on revient donc à Actes chapitre 2, ici. Il nous dit que les disciples, le nombre de disciples augmente. Actes chapitre 2, le nombre des disciples augmente. Et puis au verset 42, il dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Avant tout type de service ou de ministère dans l'Église, nous voyons que le premier engagement du disciple, c'est un engagement, je vais dire, spirituel. La doctrine apostolique, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. Et cela nous est montré, je pense, très clairement dans ce qui est expliqué ici. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Ce sont des choses qui sont des choses spirituelles. L'une des questions les plus difficiles souvent à laquelle un pasteur a à répondre, et c'est celle-ci, c'est quand un membre vient et puis dit « Qu'est-ce que je peux faire dans l'Église ?» J'ai l'impression que je ne sers à rien. Quel est mon don? Et parfois, on m'a posé cette question et ce n'était pas toujours difficile. Et quelqu'un m'a dit une fois, à quoi ça sert d'être membre si je ne fais rien dans l'Église? Pourquoi veux-tu que je m'engage comme membre si je n'ai rien à faire? Qu'est-ce qu'on va me donner à faire dans l'Église? Et c'est une question qui est un petit peu difficile. Mais on pose ces questions dans une Église où il y a 150 personnes, je ne sais pas combien vous êtes ici en général, 25, nous c'est 180, 160, 180 à peu près, et il y en a d'autres c'est 200, à l'église de Jérusalem il paraît que c'était 20 000. Hein? Et voilà ce que faisaient, c'est, déjà là ça commence, c'était 3 000 ici, au moins on peut dire qu'il y avait au moins 3 000, hein? Un peu plus tard ça a augmenté, quand on arrive à chapitre 6, ils étaient 3 000 et qu'est-ce qu'ils faisaient? Quel était leur ministère dans l'église? Eh bien, l'enseignement, la persévérance dans l'enseignement apostolique, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Un engagement spirituel. Ça, c'est ce dont nous avons toujours et toujours besoin ici. On a besoin de s'engager spirituellement. Leur préoccupation première, c'était de s'engager spirituellement à la fois, on pourrait dire, dans le temple, et puis on le voit dans le texte aussi, et dans les maisons. Et on se pose, c'est vrai, souvent la question de savoir comment est-ce que l'Église pourra avoir le maximum d'impact sur les gens. On cherche toutes sortes de programmes, de formes, de projets pour redonner du souffle à l'Église. Mais je crois que le souffle dont l'Église a besoin, c'est le souffle du Saint-Esprit. Et le souffle du Saint-Esprit pousse l'Église a persévéré dans ces quatre choses que nous voyons ici. Et je crois qu'on peut montrer au monde la validité de l'Église en montrant son engagement dans les choses spirituelles. Pas, bien sûr, en montrant sa capacité musicale. On pense que l'Église va avoir beaucoup d'impact si elle peut proposer de la bonne musique ou faire de bons spectacles ou faire des choses de ce genre. Mais je crois ici que selon ce que l'on voit dans le Saint-Esprit, d'après notre texte, c'est que quand le Saint-Esprit est accordé aux membres d'une église, il s'engage véritablement dans des choses qui sont spirituelles. Ça ne veut pas dire que le reste est négligé. Hein. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que c'est premièrement un engagement spirituel. Notez la constance de cet engagement spirituel. Il persévérait dans, il continuait dans littéralement, hein. D'autres textes disent qu'ils persistaient dans ces choses-là. Donc ça veut dire qu'ils étaient profondément attachés à ces quatre choses que nous venons de lire. Notez donc la nature de cet engagement spirituel. Donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. J'enseignais un jeune, il n'y a pas très très longtemps, on faisait des études sur le baptême, et pendant un temps, il m'a dit, mais moi, je pensais que voilà, j'ai pas besoin de lire d'autres livres, d'apprendre d'autres choses. Je lis que la Bible. J'ai pas besoin d'écouter les messages. Je lis que la Bible et ça me suffit. Et je dis non. Tu as besoin d'un enseignement apostolique. Tu as besoin qu'on t'explique l'enseignement apostolique. Parce que tout seul, on n'y arrive pas. Même avec le Saint-Esprit, ces hommes n'y arrivaient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré dans ce que l'apôtre Pierre a enseigné, dans les explications qu'il a données de l'Ancien Testament. C'est ce qu'ils faisaient. À l'époque, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Donc, ils expliquaient l'Ancien Testament. Et c'est comme cela que l'on grandit. On a besoin, donc, comme engagement, de s'exposer à l'enseignement de la parole et de le faire de manière systématique et suivie. C'est pour ça que les réunions sont importantes. Le dimanche et le jeudi. Je dis cela souvent dans notre église à Paris. Je dis, il faut s'exposer le plus possible à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, c'est un engagement dans lequel chaque membre de l'Église dans lequel chaque membre doit s'engager. Il doit s'engager à s'exposer à l'explication, à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'une extrême importance. On n'a pas le temps de le voir, mais si vous lisez le livre des Actes, la croissance de l'Église est liée intimement à la croissance de la parole de Dieu dans l'Église. Par exemple, Acte 12, verset 24, il dit: Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. On voit que la croissance augmente quand la parole de Dieu se répand. Acte 6, verset 7, il dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. À chaque fois, il faut que ce soit cette parole qui progresse pour que l'Église puisse croître. Je continue en disant, deuxièmement, on voit ici la persévérance, deuxième domaine de persévérance, deuxième domaine dans lequel on doit s'engager, c'est la persévérance dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la communion fraternelle. Qu'est-ce que la communion fraternelle? Essayez de penser, quelle est votre conception de la communion fraternelle? Si vous deviez le définir, et nous avons peut-être notre propre définition de cela. Pour certaines personnes, c'est le fait de se retrouver, de parler, de partager, de prendre des nouvelles des enfants, des uns des autres, de discuter du travail, des résultats des enfants à l'école. On dit, à la fin du culte, on a eu une bonne communion fraternelle parce qu'on a échangé les uns avec les autres. Mais vous pouvez faire ça avec votre voisin. On peut parler des enfants, de beaucoup de choses, de leurs résultats, de la pluie, du beau temps, échanger beaucoup là-dessus avec votre voisin. Est-ce que c'est pour ça qu'on a eu une communion fraternelle avec le voisin, tel que la Bible le décrit ici? Je ne crois pas. On peut faire cela, donc on peut le faire avec aussi d'autres chrétiens. On peut partager toutes ces choses le dimanche, voilà, ou tout à l'heure quand on va se retrouver à la maison, entre nous, qu'est-ce que tu fais, etc. Est-ce que c'est cela la communion fraternelle? Je ne crois pas non plus. Le terme de communion entend ici une participation et un partage. Okay. Mais nous ne devons pas oublier qu'il est question ici de la persévérance d'une église. Ici, hein. Ils, ceux qui viennent de se convertir, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont été baptisés, ils persévèrent dans la communion fraternelle. Ici. Et donc, c'est une communion qui caractérise l'église, ceux qui sont exclusivement des disciples de Christ. Et pour avoir une communion fraternelle, il faut avoir quelque chose en commun. Mais ce quelque chose en commun, on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir de véritable communion fraternelle avec le voisin parce qu'il manque ce quelque chose en commun. Et quel est ce quelque chose en commun qu'on ne peut pas avoir avec nos voisins? Ben c'est Christ. C'est le fait d'être un enfant de Christ, d'appartenir à Christ. Et donc, quand on parle de communion fraternelle, on parle de communion autour de la personne de Christ, le fait de partager des choses qui concernent le salut en Jésus-Christ. Le don que Dieu nous a fait en Christ. Et donc, les conversations, ça veut dire que les conversations ici concernaient les choses de Dieu, les choses du salut, de sa grâce dont ils ont été l'objet. L'apôtre Jean dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous l'annonçons, Et nous vous annonçons, pardon, la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, ce que nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et, ajoute-t-il, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable communion pour les croyants qui soit hors de Jésus-Christ et du Père. Quand on dit que nous avons une communion, une bonne communion fraternelle, que l'Église persévère dans la communion fraternelle, c'est qu'elle persévère dans le partage de ce qui concerne Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que le reste sera oublié autour. Après, cela donne le partage des biens, etc. Bien sûr. Mais ici, premièrement, ça veut dire que Christ est central et présent dans les échanges qu'entretenait cette Église. C'est ainsi qu'on pourrait parler de la communion fraternelle. Et puis aussi, il parle de la fraction du pain. C'est ce que nous avons eu aujourd'hui. Donc, je peux passer rapidement là-dessus. La fraction du pain, quand même, est une caractéristique fondamentale, on le voit, de l'Église de Dieu. Et donc, c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure, de se préparer toujours pour participer à cette table, parce que cela caractérise l'Église de Dieu. C'est comme elle est reconnaissable par le fait que les gens qui la composent prennent ensemble la scène et participent et obéissent à Christ dans cette ordonnance-là. Et puis, je termine en disant aussi, on voit cet engagement dans la prière. Ça, c'est important. Quatrième domaine indiqué ici, après la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est la persévérance dans la prière. C'est la volonté de Dieu que ses disciples se réunissent pour prier. Si vous êtes, je sais pas comment est l'église de Fréjus, mais nos églises à Paris, on a 180 personnes le dimanche et parfois 30 personnes à la réunion de prière ou 40 personnes à la réunion de prière. Je ne sais pas pour vous, peut-être c'est différent. Mais je crois pouvoir dire sans me tromper que souvent, la réunion de prière, elle est occultée. S'il y a une réunion qu'on estime pouvoir louper dans une vie d'église, c'est la réunion de prière. Et c'est triste, mais on voit ici que les premiers disciples, les premiers chrétiens, en tant qu'église, persévéraient dans la prière. Attention, il n'est pas dit qu'ils ne priaient pas chez eux. Il est question de persévérer ensemble dans la prière. Les gens qui disent, mais moi je prie chez moi. Oui, bien sûr, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce dont on parle ici. On parle du fait de prier en tant qu'église. C'est l'engagement qu'on doit avoir en tant que chrétien dans une église. Alors, on peut critiquer souvent beaucoup de choses à l'église. On trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Mais il est important de se poser la question, quelle est peut-être la dernière fois où j'ai assisté à une réunion de prière à l'église? Voilà, les gens qui peuvent montrer du doigt beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'église, mais quelle est la dernière fois où j'ai assisté à la réunion de prière avec les frères et sœurs de l'église? On peut prier chez soi pour l'Église, ça c'est important, mais il faut prier avec l'Église. C'est ce que l'on voit ici, que Jésus nous enseigne. Les disciples persévéraient dans la prière. Quand on lit les Épîtres, on voit combien il est important de prier. On ne va pas lire tous ces passages qui le disent, mais Colossiens 4, verset 2 dit par exemple « Persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. » Alors bien sûr, on le fait dans sa vie personnelle, mais on doit le faire aussi en tant qu'Église. Et ce qui est important ici, que je voudrais souligner ce matin, c'est le fait de faire ces choses en tant qu'Église. On peut lire la parole et s'exposer à l'enseignement de la parole chez soi. C'est vrai, on met l'Internet, on a un message, on peut écouter la parole. Je vous encourage à le faire, c'est important. On peut, on peut pas prendre la scène tout seul. D'accord ? Il y en a qui veulent le faire, hein, qui pensent, est-ce que je ne peux pas prendre la scène chez moi tout seul ? Voilà, c'est une... Ça s'appelle une communion. Hein. L'apôtre Paul appelle ça la communion dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc, communion tout seul, ça n'existe pas. C'est obligé. On peut prier tout seul. On peut faire donc pratiquement, sauf la scène, toutes ces choses-là, tout seul. Mais ici, notre texte insiste sur le fait de le faire en tant que corps, en tant qu'église. Et Jésus veut que son peuple se réunisse pour écouter ensemble sa parole, pour prier ensemble, pour partager ensemble le pain, et pour échanger ensemble autour de sa personne, ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et voilà ces choses dans lesquelles l'Église peut s'engager. On veut pouvoir savoir quel est mon don, quel est mon... Eh bien, avant de penser à quel est mon don dans l'Église, pensons à quelle est notre responsabilité dans l'Église. Et notre responsabilité ici, elle est claire. l'engagement dans l'exposition de la parole, la persévérance dans la parole, persévérance dans la prière, la persévérance dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Ici. Et on lit beaucoup d'exemples aussi dans les Actes où l'Église a prié ensemble. L'Église était en prière. Acte 5, je crois, acte 12, verset 5, il est question de l'Église qui était en prière pour Pierre qui était emprisonné. Et comment le Seigneur répond aussi à cette prière. Donc je conclue, chers frères et sœurs, en disant que le Saint-Esprit nous fait voir ce que doit être l'Église et le rapport entre l'Église et les disciples, et les vrais disciples. Le vrai disciple compose l'Église. Il est important de savoir, je ne fais pas partie de l'Église tant que je ne suis pas un disciple de Christ. Il faut d'abord donner sa vie à Christ pour être dans le corps de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Le vrai disciple aussi, il adhère à l'Église locale, il s'associe, il se place sous la responsabilité d'une Église locale parce qu'il sait qu'il a besoin de communion avec les autres et qu'il a besoin d'être discipliné aussi lorsque cela sera nécessaire. Et puis, le vrai disciple s'engage d'abord spirituellement dans l'Église, en persévérant dans ces quatre points que nous avons vus ici. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre ces choses et à être un vrai disciple qui aime l'Église locale, quelle qu'elle soit, qu'avec ses défauts, avec les gens qui sont gentils, les gens qui ne sont pas gentils, ça n'a aucune espèce d'importance. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous devons aimer aussi l'Église. Pas celle que nous ne voyons pas, mais celle que nous voyons autour de nous. Parce que c'est facile d'aimer l'Église universelle de gens qu'on ne connaît pas. C'est plus difficile d'aimer ce que nous voyons tous les jours et dont nos yeux peuvent voir les fautes ou leurs yeux peuvent voir nos fautes. Et Dieu veut que nous nous engagions dans cette Église. Cette Église-là, imparfaite, il l'aime. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il la rend parfaite. Il est en train de la rendre imparfaite. Et donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions entretenir ce même rapport avec l'Église locale, nous y engager pleinement. Donc si ça n'est pas le cas, eh bien j'espère que le Seigneur parle à vos cœurs et qu'il vous pousse à vous associer à l'Église de façon à pouvoir œuvrer avec elle et pas contre elle. Ne pas rester à l'extérieur en la pointant du doigt et en la critiquant. Mais voilà, en montant dans le bateau, dans le navire, et en ramant avec les uns avec les autres, de manière à faire grandir aussi cette Église pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce et ton amour envers nous. Merci pour ta parole et nous voulons agir en véritables disciples et nous voyons combien ces frères et sœurs, ces premiers chrétiens se sont associés à l'Église et ont partagé ensemble, persévéré dans ta parole, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la scène, et nous voulons revenir aussi à ces choses. Et Seigneur, nous engager pleinement dans ton Église. Donne-nous un cœur obéissant et donne-nous de saisir vraiment la nécessité de ces choses et que par ton esprit, tu nous donnes de grandir en toi et d'aimer, de nous aimer les uns les autres, de considérer ce fait que nous faisons partie du même corps, que nous sommes membres les uns des autres, que nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être aidés, nous avons besoin d'aider aussi. Et aide-nous à vivre en vrai disciple, nous te prions. En ton nom et pour ta seule gloire. Amen. Notre culture.